8h44, en ces temps de crise énergétique. Et vous, c'est quoi vos éco-gestes? Tiens, attention, hein, si vous n'êtes pas exemplaire. Regardez ce qui s'est passé hier en conférence de presse du Paris Saint-Germain. Vous avez le journaliste de LCI, Paul Larouturou, ancien de Quotidien, qui demande à Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'il a parlé aux joueurs de l'éventualité d'arrêter les déplacements en jet privé pour se rabattre plutôt sur le train. Réponse mi-figue, mi-raisin, mi-amusé, mi-agacé du coach parisien. Écoutez.
Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
Voilà, et le rire au début, c'est celui de Kylian Mbappé qui n'en revient pas de la question. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? On parle de la Juventus, la Ligue des Champions, et l'autre, il vient nous embrouiller avec son train. Voilà comment ça se passe en réalité pendant cette conférence de presse. Voilà, il y a énormément de réactions depuis hier. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, interpelle le coach parisien. Ils ne font même plus semblant, s'indigne l'écologiste Karim Adeli. Non, mais ça va pas, on se réveille, les gars, nous dit Anne Hidalgo sur Twitter. Bon, une réaction que j'ai trouvée plutôt drôle, toujours sur Twitter, c'est un supporter parisien qui rappelle que depuis des années, le PSG fait des efforts pour la planète. Hein. Il évite des trajets inutiles en sortant en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, donc le char à voile de Galtier, durement taclé par la gauche, mais aussi ce week-end. Je le signale, pour équilibrer un peu la balance, le 4x4 de Jean-Luc Mélenchon, à bord duquel il repart de la braderie de Lille, après avoir sermonné tout le monde sur l'urgence climatique. Gare donc à la faute verte. Bonjour François Calfon.
Bonjour.
Bonjour Eugénie Bastier également, essayiste, journaliste au Figaro Vox, auteur de l'ouvrage La guerre des idées chez Robert Laffont. On pourrait en rajouter, hein, le jet ski d'Emmanuel Macron, oh, carton vert également, etc. Ça, c'est le thème de la rentrée, vous pensez, dans ces temps de crise énergétique, François Calfon?
Bah, écoutez, naturellement, on ne peut qu'être affligé par la réaction de M. Galtier, et qui montre le décalage complet entre le monde du foot business, supporté par le Qatar, qui a à peu près le pire bilan carbone du monde, et l'urgence climatique. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, prenons un peu de distance, c'est l'objet même de cet entretien.
Le sujet, le recul stratégique, merci mon cher François,
non, mais c'est vrai. Bien. C'est-à-dire que le sujet, il est tout simple, c'est est-ce qu'on va régler le problème du climat par céder aux sirènes d'une écologie émotionnelle, ou est-ce qu'on va passer au stade d'une écologie rationnelle? Si vous prenez le sujet des jets privés, qui est un sujet en fait comme des poupées russes, si j'ose dire. Il y a un sujet climatique et il y a un sujet de la passion française pour l'égalité. C'est-à-dire que derrière, il y a, on va couper la tête, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les riches à la lanterne.
L'anticapitalisme n'est pas loin derrière.
Bah, c'est même plus que ça, hein, parce que le capitalisme, finalement, couper la tête aux puissants et aux riches qui seraient responsables de tous les maux. L'écologie rationnelle, et j'en termine là pour qu'il y ait un dialogue, c'est de dire que les jets privés, moi je n'utilise pas de jets privés, j'en ai pas. Hein, Monsieur Messi l'a utilisé 51 fois cet été, mais ça n'est responsable que de 0,1% des 2,5% de l'ensemble du trafic aérien dans le monde. Par contre, le charbon utilisé en Allemagne par abandon du nucléaire il y a 10 ans, c'est 18% du carbone. Donc je souhaiterais que l'écologie rationnelle l'emporte pour régler effectivement le problème du climat. Mais je crois que finalement, dans ces sujets de poupées russes, de poupées gigognes, on va finalement se taper les riches plutôt que régler le climat.
Eugénie Bastier. Bah,
d'abord, je voudrais dire mon respect à Monsieur Galtier, parce que faire une blague en conférence de presse en 2022, c'est très risqué. Et d'ailleurs, surtout sur le climat, Sandrine Rousseau est là pour veiller au rire autorisé. Et c'est vrai qu'on est dans un écosystème médiatique qui fait que la moindre petite phrase et la moindre blague qui plus est prend des proportions énormes. Cela dit, moi, c'est vrai que ce rire désinvolte de Kylian Mbappé, il avait quelque chose d'éminemment symbolique. Et pour moi, c'est un symptôme aussi de cet archipel français dans lequel on vit, c'est-à-dire que pendant qu'on a des écolos qui se privent de chipolata et qui font pipi sous la douche, il y en a d'autres qui font des Paris-Nantes en jet privé, et on a l'impression que effectivement les gens ne vivent pas sur la même planète précisément.
Alors après, juste un truc, c'est imaginer le Paris Saint-Germain qui arriverait gare Montparnasse pour aller à Lyon, pour aller à Nantes, et imaginer l'émeute, le défi sécuritaire.
Bien sûr, il y a énormément de problèmes logistiques, voilà. on peut s'interroger là-dessus. La vraie question que pose cette séquence, c'est la question des petits gestes. Est-ce que les petits gestes sont utiles à l'écologie? Dans quelle mesure peuvent-ils effectivement contribuer à cette révolution, cette transition écologique? C'est une question qui va se poser de plus en plus. Et ce décalage finalement entre la parole et les actes, qui est sans cesse dénoncé sur l'écologie. Ce n'est pas nouveau, hein. Rappelez-vous, là on a le SUV de Jean-Luc Mélenchon, on avait la Porsche de DSK, il y a toujours ce décalage entre les discours et les actes. Sauf que l'écologie, précisément, impose une orthopraxie de tous les instants. C'est-à-dire que des petits actes pour montrer qu'on appartient à ce mouvement, à cette
qu'on
mouvance.
Qu'on agit bien, qu'on agit conformément.
C'est tous les moments de sa journée, ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on roule, tous les gestes du quotidien sont épluchés. Donc c'est encore plus difficile que d'être de gauche et de ne pas rouler en Porsche. Ouais. Ça va être très compliqué pour les personnalités écologiques de mettre en conformité leurs actes et leurs paroles, et elles seront en permanence.
Mais gare à la faute verte. Alors je vous donne aussi deux faits que j'ai trouvé assez étonnants. On apprend dans le journal Les Échos ce matin qu'on va bientôt former les hauts fonctionnaires à l'école du climat. Et Radio France s'est payé une campagne de pub hier dans les journaux pour nous annoncer en pleine page qu'elle lance que le climat allait devenir la colonne vertébrale de la ligne éditoriale des antennes du groupe et que tous les journalistes allaient être formés à l'écologie.
Mais écoutez, je vais vous dire, je pense qu'il y a une forme de régression intellectuelle, spirituelle et politique. Ouais. Dans le fait que l'écologie, c'était un problème qui est rationnel et scientifique, comment on règle ce problème climatique, dont une part humaine n'est pas contestée, l'écologie deviendrait l'alpha et l'oméga de toute spiritualité ou de toute idéologie. Mmh. Et je pense que cette écologie, qui est une écologie de dénonciation, beaucoup, je parle de l'écologie politique, hein, est finalement une sorte de réminiscence d'une idéologie millénariste de peur. Hein, on va tous mourir. Et vous voyez l'éco-anxiété chez les jeunes qui ne font plus d'enfants. Et que, d'une certaine manière, c'est la capacité de se monter les uns contre les autres sans cheminement humain fédérateur. Parce que constate-t-on dans ce qui a été décrit comme phénomène? Eh bien, finalement, c'est l'opposition des uns contre les autres. Et l'humanisme, dans cette écologie-là, alors qu'il devrait prévaloir, on devrait faire le pari de l'intelligence humaine pour régler ce problème rationnel, est en train de partir au profit de « on va tous mourir », qui a été accéléré d'ailleurs. Je trouve que cette espèce d'angoisse générale, de dénonciation collective, a été accélérée, notamment les nouvelles générations, après le Covid, en s'apercevant que finalement, il y a des phénomènes qui nous dépassent et que la solution, elle devrait être une manière de fédérer, de trouver un chemin tous ensemble. Et si vous voulez, comme c'est une idéologie qui est très forte à gauche. Finalement, ce qui a fait la gauche, c'est l'humanisme et les Lumières. Et ce qui, à mon avis, défait la gauche, c'est cette espèce d'idéologie anti-humaine.
Alors, si je peux me permettre, parce que vous avez l'air quand même relativement d'accord tous les deux, mais pour chercher quand même la nuance, je dirais que ce qui va peut-être agacer l'homme ou la femme de droite, c'est de se dire... Les écolos sont là, ils nous engueulent d'une certaine manière. Il y a ce reproche qui est fait de ne pas être suffisamment vertueux. Et puis vous avez ce que dit Valérie Masson-Delmotte, donc qui est une grande paléoclimatologue, je ne dis pas de bêtises, et qui, en introduction du premier conseil des ministres la semaine dernière, dit aux membres du gouvernement « La charge mentale de la transition climatique, ce n'est pas aux jeunes, ce n'est pas au peuple de la porter, c'est à vous les dirigeants. » Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vrai dans cette phrase, Jenny Bastier.
Oui, bien sûr. Alors, ce problème de l'exemplarité, il se pose de son partout en politique, que ce soit dans les affaires de mœurs, dans le rapport à l'argent, et particulièrement sur cette question écologique. Mais je veux dire, c'est aussi, ça a ses limites. Évidemment que les élites doivent montrer l'exemple, mais les grands changements qui nous attendent doivent être effectivement structurels, portés par tous. Ce n'est pas effectivement le fait que les ministres coupent le gaz de leur voiture pendant le Conseil des ministres qui va changer grand-chose au bilan carbone de la France, surtout quand on se compare à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, qui sont des énormes émetteurs d'énergie, alors que nous avons le nucléaire. Donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en œuvre, c'est-à-dire des réformes structurelles. Je ne crois pas du tout, moi, en fait, je crois très peu à la politique des petits gestes. Je pense que, si vous voulez, c'était bien quand les gens apportaient eux-mêmes leurs sacs en plastique, leurs sacs dans les supermarchés, mais quand on a interdit les sacs plastiques dans les supermarchés, ça a fait une différence majeure. Il faut que la loi passe par là. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait des changements structurels. Et on ne peut pas compter comme ça sur les comportements individuels. Et toute la question va être de comment faire passer ces changements sans être dans la coercition, sans être dans des mesures autoritaires qui seraient jugées insupportables par nos compatriotes.
Autre sujet, mais c'est pas très loin finalement, François Calfon, il y a un cabinet de conseil britannique qui s'appelle Verisk Maplecroft, je ne connais pas, qui vient de publier un rapport qui nous dit que plus de la moitié des pays du monde pourraient être touchés cette année par des émeutes ou des mouvements sociaux, enfin dans les 6 prochains mois, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Plus de 100 pays pourraient être touchés par ce genre de mouvement. On a vu l'Allemagne hier, 100 000 manifestants ce week-end à Prague, et beaucoup de monde du côté de Leipzig, etc.
Bah, en fait, ça, c'est pas tout à fait le sujet, si je puis me permettre, c'est pas tout à fait le sujet de l'écologie et le sujet de l'énergie, c'est deux choses. C'est la reprise de l'activité post-Covid et c'est la guerre en Ukraine. Parce qu'en réalité, l'énergie, elle est abondante. Elle est carbonée, mais elle est abondante. La question, et ça revient finalement au sujet précédent, bah, elle est abondante quand même. C'est-à-dire qu'on a les solutions techniques et humaines en développant
Un réacteur nucléaire, ça ne se construit pas en 6 mois. Donc on peut dire que
le nucléaire, c'est une chose
qui est là, mais on n'a pas les capacités techniques de créer un réacteur comme ça.
Mais on va passer l'hiver, en tout cas. On aura du gaz cet hiver.
Je reviens à mon point.
Et l'abondance, elle n'est plus là.
Ça, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'abondance n'est plus là. Je ne comprends même pas ce débat. Le point, il est celui que j'ai dit à indiquer au départ. Si on est dans l'écologie et dans finalement l'émotionnel, l'abondance n'est plus là. Mais c'est extrêmement conjoncturel. Vous dites, il faut du temps pour construire les centrales nucléaires. Il faut du temps pour la fusion nucléaire. Mais typiquement, c'est la place de la politique, c'est la place de l'intelligence humaine que de programmer.
On l'a pas fait. Maintenant, c'est trop tard.
Maintenant, non, c'est pas trop tard. Enfin, ne participons pas de cette logique d'angoisse collective. Du pétrole, il y en a. Du gaz, on va passer l'hiver avec. On va même importer du charbon. Je viens d'entendre par M. Macron qu'on importerait de l'électricité d'Allemagne, c'est-à-dire de l'électricité lourdement carbonée. Donc, dans la période, on en a. Maintenant, c'est vrai que pour retrouver les voies de l'abondance, il faut faire confiance à la science et à la technique. Et je reviens sur le sujet nucléaire. Pourquoi on a abandonné ? Par une logique émotionnelle, je tiens à le dire. La logique émotionnelle est laquelle ? Il y a eu des morts, c'est vrai, à Fukushima, c'est dramatique, mais il y a des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de morts du charbon chaque année. Eh bien, je souhaite que face à un problème auquel nous avons contribué, qui est le carbone, nous répondons par la rationalité scientifique, technique et par le consensus humain, comme nous tentons de le faire sur ce plateau.
Mais ce qui est vrai, c'est frappant, c'est est-ce que l'émotion peut répondre à une crise de l'envergure de la crise climatique et à un enjeu tel que la transition énergétique. On le voit, c'est vrai, on a fermé les centrales nucléaires en Allemagne sous le coup de l'émotion. On a pris, sous le coup de l'entrée de la Russie en guerre contre l'Ukraine, on a pris des sanctions sans se poser la question de ensuite on va plus avoir de gaz, sans prévoir finalement quelles allaient être les conséquences de ces sanctions. Et c'est le problème de l'écosystème médiatique dans lequel nous vivons qui laisse une place énorme à l'émotion, alors qu'on a des enjeux qui sont profonds, qui doivent être traités avec une rationalité énorme parce qu'ils sont déterminants pour notre avenir.
Résistons à l'émotion en politique.
Merci à tous les deux, Génie Bastier, François Calfon. Je vous dis à la semaine prochaine.